vite, faut faire vite. Tout le temps faut courir pour gagner du temps. Faut courir pour gagner l'argent. Faut courir le temps, gagner tout le temps. Faut courir le temps, gagner tout le temps. Faut courir le temps, faut courir le temps. Faut courir le temps, faut courir tout le temps. Tu galopes, tu galopes, tu galopes tout le temps. Tu galopes, tu galopes, tu galopes souvent. Tu galopes, tu galopes, tu galopes tout le temps. Pourquoi faire? Pour gagner de l'argent. T'as gagné, t'as gagné, t'as gagné l'argent. Tu peux prendre, tu peux prendre, tu peux prendre ton temps. Mais tu galopes et tu galopes et tu galopes tout le temps. Pourquoi faire? Pour gagner plus d'argent. Tu galopes, tu galopes, tu galopes. Les gens sont lents, poussez-vous que je sois devant. Tu galopes, tu galopes, tu galopes. Pourquoi les hommes ralentissent tout le temps? Tu galopes, tu galopes, tu galopes. L'enfer c'est les autres qui prennent leur temps. Tu galopes, tu galopes, tu galopes. Suffit de dormir moins longtemps. La fatigue c'est ta hantise. Je toujours ma boîte de froid et ronçant. Tu t'assois, tu poses tes valises. Je n'ai pas le temps d'en prendre alors. Tu galopes, tu galopes, tu galopes tout le temps. Tu galopes, tu galopes, tu galopes souvent. Tu galopes, tu galopes, tu galopes tout le temps.
Bonjour, c'est Radiohead sur Canal Sud. Radiohead, c'est une émission consacrée à l'école et à l'éducation. Et c'est jusqu'à 14h. Et aujourd'hui, on va parler du temps. Alors, en préparant nos deux dernières émissions sur l'école et ses marges, il nous est apparu soudain que le temps était une problématique centrale dans l'école. Et que, en nous penchant dessus, on allait toucher à une, si ce n'est à la racine du mal ou de mal-être. Celui des enfants, des jeunes, mais peut-être celui des enseignants, des parents. L'école, le temps d'apprendre, le temps où on grandit, mais aussi le temps bourbattant, le temps fout pas une, le temps engage, le temps va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, le tant pis pour toi. Puis on s'est demandé si le temps ne fait rien à l'affaire et comment au lieu du temps en merde, on pouvait faire le temps mieux. Mais là déjà, il nous a semblé qu'on n'aurait pas le temps en une émission. On reviendra donc continuer à en parler. Aujourd'hui, on parlera donc plutôt et concrètement de l'organisation du temps dans l'école primaire et dans le secondaire. Voyez comme on est de notre temps. On vous a préparé à ce propos un petit reportage sur le temps vu par les ados. Et on réfléchira aussi sur le lien entre le temps de l'école, du travail et celui du travail, pardon, dans notre société contemporaine.
Voilà, pour commencer, on va parler d'une chose dont on n'a absolument pas entendu parler. C'est le décret sur les rythmes scolaires qui concerne le premier degré dans l'éducation nationale. Alors on va prendre le parti pris afin de voir ce décret plutôt d'un point de vue de l'enfant. Donc l'enfant, dans ce décret, il va garder le même nombre d'enseignements en classe entière, soit 24 heures, mais il sera plus étalé sur la semaine, ce qui n'est pas trop mal en soi. À Toulouse, en l'occurrence, ça ne va pas changer grand-chose, puisque l'école toulousaine, elle est depuis assez longtemps maintenant, déjà à 4 jours et demi. Donc, les enfants passent de 4 journées de 6 heures d'enseignement à 4 jours de, alors attention, 5h30 maximum, et une demi-journée qui ne doit pas dépasser 3h30. Et la pause méridienne, c'est-à-dire la cantine, elle doit être d'1h30 minimum. Concrètement, là aussi.
Minimum, ça veut dire que ça peut bouger.
Ça veut dire que c'est 1h30 minimum. Il n'y a pas de maximum envisagé. En revanche, le minimum est envisagé. Mais c'est une bonne question parce que ça, c'est pas anodin, ce minimum, justement. Donc concrètement, d'abord, les enfants resteront au moins autant de temps sur le lieu de l'école parce que en refondant l'école, Payon a oublié de refonder la société. Et donc, les parents des enfants, eux, ils bosseront toujours autant. Mais ça, on en reparlera donc dans une autre partie de l'émission tout à l'heure. Ensuite, il a aussi oublié de revoir les programmes qui ont été considérablement alourdis en 2008 par notre gouvernement, enfin notre ancien gouvernement de droite. Donc, en prenant le cas de Toulouse, vu qu'on est à Toulouse, pour voir un peu en détail ce qui va se passer, mais pas trop non plus, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir non plus. Les nouveaux horaires de la classe, ça sera donc de 8h30 du matin jusqu'à 11h30 et de 13h45 à 16h pour l'après-midi. Ce qui veut dire que la pause de la cantine, elle est rallongée d'un quart d'heure. Bon, a priori, c'est pas non plus énorme. Hein. Voilà. Donc, les enfants auront donc 2h15 pour manger au lieu de 2h actuellement. Mais ils ne font pas que manger pendant cette pause. Ils sont aussi pris en charge par ce qu'on appelle un CLAE. Le CLAE, c'est le centre de loisirs qui est associé à l'école. Ils sont souvent municipaux, donc sous la tutelle des communes. Là aussi, c'est pas anodin. Donc, il va y avoir un coût supplémentaire pour ces communes. Même si c'est un quart d'heure par jour, n'empêche que étalé sur l'année, ça représente du temps et de l'argent. Mais là, en revanche, Payon, il y a pensé, il n'a pas oublié. Il va donc y avoir, sur ce temps clé, un abaissement du taux d'encadrement. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir un animateur pour 14, on pourra avoir un animateur pour 18, histoire de faire des économies aussi là. Voilà, donc il va y avoir donc il y a déjà des animateurs et des animatrices sur les écoles qui portent aussi un regard autre que nous enseignants sur les élèves, ça c'est très bien. Et ils vont devoir leur proposer des activités dites de qualité. C'est écrit dans le décret. Voilà, avec donc dans différents domaines culturels, sportifs et artistiques. Alors, ce qui va poser problème, c'est au niveau de ces prises en charge justement par la mairie, puisque on sait très bien que les communes n'ont pas autant d'argent. Enfin, il y a des inégalités au niveau des communes. Il y a des communes qui ont beaucoup d'argent et il y en a qui en ont moins que d'autres. Donc, première inégalité, voilà. Ensuite, par rapport à ces activités, est-ce que elles vont être payantes ou pas? Ça dépend si la commune peut subventionner, jusqu'à quel taux, etc.
Donc, payantes aussi, pour les parents?
Bien sûr.
Donc ça veut dire qu'il y a une partie du temps de l'école qui devient payant. Donc il était déjà ou...
Alors ça l'est déjà parce qu'on paye le CLAE, mais là du coup, si nos enfants resteront plus sur le temps CLAE, forcément les parents vont devoir payer plus. Les communes ne vont pas
tout payer.
Ne vont pas tout payer. Non, ouais, non. Ouais. Ça c'est à peu près sûr. Voilà. Donc ça c'était pour la partie hors temps scolaire à proprement parler. Ensuite, toujours au niveau de ce temps scolaire, donc il y a les 24 heures dont on a parlé là à l'instant, les 24 heures hebdomadaires d'enseignement, et il y a en plus ce qu'on appelle maintenant l'APC. Alors l'APC, c'est les activités pédagogiques complémentaires. En fait, ces activités pédagogiques complémentaires remplacent l'aide personnalisée. Alors, c'est pareil, si vous ne comprenez pas, il faut m'arrêter. Remplacent l'aide personnalisée qui avait déjà cours dans les écoles, qui a d'ailleurs largement contribué à éradiquer les RASED, puisque donc les RASED, le réseau d'aide spécialisé aux enfants en difficulté. Donc là, on a des activités pédagogiques complémentaires qui vont être à raison d'une heure par semaine au lieu de deux pour l'aide personnalisée avant le décret. C'est pas clair, hein. Ça fronce les sourcils. Hein.
Ouais, mais qu'est-ce qu'on rajoute là avec cette une heure? C'est pour un certain nombre d'enfants, pas tous les enfants?
Voilà, parce que en fait, c'est les enfants qui ont des difficultés passagères. Donc on est censé les prendre en groupe restreint pour les remettre dans le train, quoi. Voilà, les élèves qui sont un peu en retard, qui ont des difficultés, on les prend une heure de plus par semaine pour pouvoir faire un travail spécifique avec ces enfants-là pour essayer de les remettre sur les rails. Donc en gros, on se substitue aux enseignants qui étaient spécialisés là-dedans, qui avaient des formations et qui ont été...
À la RASED.
Voilà, qui ont été enlevés.
Et donc, en fait, le système qui consistait, là, qui avait été tellement décrié de stigmatiser un certain nombre d'enfants en leur rajoutant du temps par rapport au temps commun de la classe, il est maintenu.
Tout à fait.
Voilà, mais... alors je crois que c'est pas encore bien précisé ce contenu des APC, parce que c'est pas pour rien qu'il a changé de nom, mais effectivement, c'est la crainte qu'on a, qu'on soit encore dans l'obligation de prendre ces enfants en difficulté dans ces heures-là. Mais il y a peut-être une ouverture vers d'autres choses aussi, notamment sur la prévention, par exemple, des difficultés, et non pas le traitement des difficultés en question.
Alors, si, quand même, parce que donc, c'est quand même écrit dans le décret que ces APC... elles sont organisées dans le cadre du projet d'école par groupe restreint d'élèves pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leur apprentissage, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant, en lien avec le projet éducatif territorial. Voilà. Alors là aussi, justement, donc ça veut dire que ces activités seront définies par le projet d'école, mais aussi par ce qu'on appelle, et c'est nouveau, le projet éducatif territorial, c'est-à-dire les communes. Donc ce que ça veut dire, ce qu'on peut lire en filigrane là ici, c'est que la mairie aura son mot à dire finalement sur ses activités. Ce qui veut dire que la mairie rentre par la petite porte dans le pédagogie au niveau de l'éducation nationale dans le premier degré.
Et c'est bien ou c'est pas bien ça ?
Ben non, c'est pas bien parce que du coup, donc, les enseignants qui faisaient partie jusqu'à présent de l'éducation nationale commencent à voir rentrer dans leur mission, du coup, la commune. Ce qui fait que, donc, avec cette augmentation de la prise en charge des élèves par la mairie, justement, puisqu'on allonge cette pause méridienne, même d'un quart d'heure, c'est anodin un quart d'heure, mais c'est quand même une petite porte. Donc la mairie se retrouve donc,
elle devient maître d'œuvre comme l'éducation nationale.
Elle devient beaucoup plus partie prenante dans l'école primaire qu'elle ne l'était avant. La pause méridienne se rallonge, mais aussi par ses activités pédagogiques complémentaires, par le projet éducatif territorial, la mairie rentre dans l'éducation nationale. Donc ce qui veut dire que là aussi, on est en train de casser le cadre justement national de l'éducation nationale pour avoir un cadre plus territorial.
Alors ce qu'on peut dire, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler justement dans une émission future, c'est que c'est vrai que ce que tu viens de souligner, c'est les appréhensions qu'on a par rapport au texte écrit. Et pourquoi on a toutes ces craintes ? C'est parce qu'en fait, il faut rappeler, la rédaction de la réforme, elle a lieu sans nous. Donc il n'y a pas eu de concertation réelle avec les enseignants. Il y a eu un travail mis en place l'été dernier avec des spécialistes de l'éducation, des syndicalistes, etc. Mais enfin, ça n'a pas duré très longtemps. Et on sort un texte de loi qui finalement est assez obscur et qui laisse la porte ouverte à des utilisations diverses. Parce que par exemple, les mairies, elles sont déjà intervenues dans l'animation de ces temps périscolaires depuis très longtemps. Selon les communes, elles ont un rôle plus ou moins important. Parfois, elles se contentent de faire de la pure et simple garderie, pour des histoires de choix politiques parfois, ou des histoires financières. Mais parfois aussi, elles ont mis en place des réelles activités et en partenariat avec les enseignants et les équipes en place, et parfois avec beaucoup de plaisir aussi de la part de ces équipes. Mais ça, c'est suite à un travail réel de collaboration. Alors que là, c'est quelque chose qui nous est un petit peu mis comme ça, on nous met devant le fait accompli, nous en tant qu'enseignants, mais aussi les mairies qui sont tout d'un coup obligées, à qui on demande tout d'un coup d'organiser des choses sans que forcément elles en aient les moyens. Mais...
Oui, c'est ça. Enfin, que les choses soient claires, hein, même si effectivement la mairie propose, et c'est là, enfin, le terme il est pas anodin, parce que jusqu'à présent la mairie propose des activités aux enseignants, libre aux enseignants de participer à ce que propose la mairie ou pas. Là, ça va pas être le cas.
Mais c'est sur le temps périscolaire. Là, c'est pas la même chose. C'est pas sur le temps scolaire.
Non. Oui, enfin, attends. Sur le temps scolaire, la mairie propose. Les enseignants. Soit ils adhèrent, soit ils le demandent, soit ils ne le demandent pas. Et ça, c'est sur leur temps d'enseignement.
Oui.
Sur le périscolaire, c'est le périscolaire. C'est la mairie qui prend en charge. D'accord. Mais sauf que là, ils rentrent dans un cadre où on est. Ça rentre dans un cadre, dans le cadre de temps d'enseignement. Là, on est dans un cadre éducation nationale.
Ça suppose, par exemple, qu'il y a de la coordination entre les différents intervenants. Est-ce que c'est prévu, ça ?
Absolument.
Parce que ça veut dire, par exemple, comment ça s'organise concrètement sur les lieux, sur, ça veut dire, toi, tu es dans ta classe avec tes élèves jusqu'à, je ne sais pas, quelle heure, là ? Bon, bref.
11h30, midi.
Voilà. Et ensuite, il y a d'autres gens qui viennent dans ta classe ?
Alors, pour le moment, non. Pour le moment, donc, la classe reste la classe, c'est la classe des élèves et de l'enseignant. Mais sauf que là, effectivement, dans cette nouvelle organisation, la mairie prenant en charge plus longtemps les élèves, elle va devoir aussi forcément débloquer des locaux. Donc il y a toute une question, effectivement, de concertation, mais aussi les locaux, est-ce qu'on ne va pas être, du coup, dans l'obligation, quelque part, d'avoir à partager plusieurs locaux qui, jusqu'à présent, ne l'étaient pas ? Ce qui peut être... Enfin, c'est une vraie question, parce que...
Mais ça se fait au collège et au lycée.
Voilà, en fait. Après tout, pourquoi pas ? Tout à fait. Sauf que là, au collège et au lycée, les élèves n'ont pas une classe attitrée.
Mais c'est justement un problème, en fait.
Chose qui chose qui se passe en primaire. Et c'est juste à un moment donné, pour éviter la confusion des genres, mais ça se discute, hein, tout ça. Hein. Après tout, pourquoi pas ? Est-ce qu'on pourrait pas non plus ? Voilà, est-ce qu'on pourrait pas prêter nos classes ? Enfin, puis pourquoi c'est nos classes ? Pourquoi est-ce que c'est simplement à un moment de... Peut-être qu'on peut faire ce genre de choses, mais il faut vraiment le discuter et le discuter avec tout le monde, les élèves compris. Et ça, ce temps de concertation-là, il doit être important et il est absolument pas prévu.
Ouais, donc du coup, ce qui s'annonce, c'est quand même une sacrée désorganisation et au niveau du temps et au niveau de l'espace dans la semaine des enfants à l'école, quoi.
Oui, surtout que cette application du décret, donc elle va être mise en place à la rentrée là 2013 et donc sans concertation, hein, comme on vient de le dire. Et puis on n'a pas, enfin même jusqu'à présent, c'est-à-dire que on nous a toujours pas donné officiellement les horaires de l'école pour l'année prochaine. On le sait officieusement, on le sait. Mais officiellement, rien n'a été rendu, entre guillemets, public. Ce qui veut dire que on va avoir des horaires rendus publics là, donc sous peu, la semaine prochaine, c'est-à-dire à la fin de l'année, pour une mise en place en septembre. Quand est-ce qu'on va se concerter, par exemple ?
Mais ça effectivement c'est ce qui manque, mais c'est intéressant la discussion qu'on a, parce qu'en fait on s'aperçoit que même nous on est effectivement pas au courant de tout ce que ça implique, et ce qui est vraiment dommage, c'est que l'école, je crois que si on fait cette émission, c'est qu'on est d'accord pour la transformer. Donc je crois qu'on est bien conscient du fait qu'il faut qu'on ait un autre regard sur l'école, et là dans une réforme qui voulait être une refondation de l'école, donc quelque chose de un changement en profondeur, on pouvait espérer effectivement avoir une réflexion intéressante, et ce que ça occasionne effectivement, c'est beaucoup de craintes de notre part et peut-être une espèce de focalisation sur des choses qui paraissent de notre domaine. Mais je crois que il me semble que là ça va être intéressant d'en reparler, parce que le temps de l'enfant, c'est une réflexion qui existe depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on se dit que le temps de l'enfant, il est pas organisé comme il faut. Ça fait très longtemps que les chronobiologistes disent que ça va pas du tout, la façon dont on gère le temps scolaire, qu'il faut des temps de repos, qu'il faut des journées plus courtes. Ça fait très longtemps aussi qu'on pense qu'il faut une cohérence justement entre ces différents temps, pour que ça soit pas un temps scolaire où, entre guillemets, on se prend la tête, et puis un temps de loisir où on fait, où on se défoule. Il faut réfléchir à tout ça. Mais voilà, le problème, c'est comment on y réfléchit maintenant, dans ce contexte-là, si rapidement et avec les moyens qu'on met en place. Alors, ce qui est à peu près certain quand même, là, dans les semaines et les mois qui vont venir, c'est qu'il y a des communes qui, elles, ont déjà une réflexion derrière elles, qui ont déjà mis en place des choses, qui vont aborder le problème d'une façon tout à fait différente de celles qui ont jamais été dans cette réflexion-là. Et donc, ça va donner des choses extrêmement inégalitaires, déjà du point de vue de la réflexion. Alors, sans parler de l'aspect financier, parce qu'effectivement, les animateurs à la campagne, hein, dans une petite commune, on n'a pas les moyens de s'en payer. Donc effectivement, on se retrouvera avec des animateurs qui sont les braves dames qui veulent bien garder les enfants le soir. Je pense pas que ça va apporter un plus d'avoir un petit peu plus de ce temps-là aux enfants. Alors que dans les villes qui ont envie de faire quelque chose, il peut y avoir des projets qui peuvent être intéressants. Voilà, donc ça risque fort de créer des situations très très diverses. Donc bon, mais il faudra qu'on en reparle avec des exemples précis, parce qu'il y a quand même des choses qui existe, quoi.
Après, bon, au niveau de la mise en place rapide, la France, elle n'est pas toute seule. Hein, on fait partie d'un truc qui s'appelle l'Europe. Hein, et puis après, on fait partie d'un truc qui s'appelle le monde. Donc voilà, on essaye d'harmoniser déjà au niveau européen. On se rapproche de plus en plus du modèle allemand et des modèles du Nord, avec les Länders en Allemagne, où en gros, il y a les matières dites cognitives, où il faut vachement utiliser la tête le matin pour faire des maths et du français. Bon, ils font des maths et de l'allemand, mais... Et puis l'après-midi, c'est plutôt des matières plus détentes, artistiques, culturelles, sportives. Et, Et finalement, en France, moi je pense que faut pas se leurrer, on est en train d'essayer de se rapprocher de ça et d'avoir une école, pour avoir une école du socle bien forte, le socle commun dont on a déjà parlé, hein, le lire, compter, écrire, voilà. Et moi, ma crainte, c'est qu'on se retrouve, nous, enseignants du premier degré, à ne faire que du maths, que des maths et du français le matin, et de laisser toutes les autres activités aux communes. Et que nous-mêmes, nous, enseignants pour le moment fonctionnaires d'État, on devienne fonctionnaires des collectivités territoriales.
Alors là, tu nous dresses le portrait le plus noir possible. On espère qu'on n'ira pas vers, vers sa réalisation.
Ouais, mais je pense que c'est pas, il faut pas se, enfin, ça peut être une réalité, quoi.
Alors, moi, j'ai parlé du secondaire qui est donc qui est pas touché par ces changements-là. Hein. Ça peine plus à se transformer. Peut-être que c'est pas une bonne idée non plus de le laisser en l'état, parce que en l'état, c'est d'une part donc au collège et au lycée, le fait que les enfants et les adolescents ont 26 à 30 heures de cours par semaine, plus le travail à la maison. Donc ça, voilà, je dis 26 à 30 heures parce que ça change du collège au lycée. Et puis que c'est une organisation donc en unité de temps de 55 minutes qui sont toutes tout le temps sur ce mode-là. Donc c'est rythmé par la sonnerie, par des déplacements dans l'espace, on change de salle, il y a la récréation au milieu des deux demi-journées. Voilà, et ça c'est un héritage de l'organisation de l'enseignement religieux qui nous vient directement du XVIIe siècle, en fait, qui a été assez peu modifié. C'est un enseignement qui est très ritualisé, très rythmé, qui va avec aussi une discipline des corps. Et au départ, c'est avec un certain nombre d'enseignements qui étaient peu nombreux. Et c'est calqué sur le modèle enseignement par un maître, on apprend des leçons, puis on fait des exercices. Voilà, et donc les collèges étaient, au XVIIe siècle, les collèges religieux étaient organisés comme ça. Il y avait peu de temps de cours magistraux, c'était 2 heures à 2 heures et demie par jour, et après on apprenait les leçons et on faisait des exercices. Et puis petit à petit, il y a eu prolifération des matières, et ça n'a jamais cessé cette prolifération des matières. La réforme des lycées de 2009, par exemple, a rajouté des matières, a réduit encore le temps par matière. Non seulement le temps reste... Le temps passé à l'école reste toujours très important. Ça, c'est depuis un siècle qu'il est très important, le temps passé à l'école, au collège et au lycée. Mais il est de plus en plus morcelé. Il y a des nouvelles matières depuis donc 4 ans, des nouvelles matières qui durent 1h30. Des cours de langue, c'est 2 heures par semaine, 2h25. Par semaine. Une espèce de d'éclatement du temps, et ça contribue à faire donc des unités de temps, des unités temporelles de travail en classe très très courts, et qui vont privilégier en fait un mode d'enseignement qui est très simple, hein, c'est cours magistral, point, parce qu'il n'y a pas le temps laissé à la construction d'un savoir par la classe, à des échanges entre élèves, à de la mutualisation, à de l'approche un peu complexe du savoir. C'est vraiment du coup une conception de l'enseignement qui pousse les enseignants à être les seuls dispensateurs de savoir et à concevoir les élèves comme des entonnoirs, un enseignement entonnoir, quoi, et des élèves congaves. Voilà, bon, par ailleurs, le fait que ce soit des unités de temps standardisées, ça implique aussi que il n'y a pas de prise en compte des rythmes différents selon le temps de la journée. Par exemple, effectivement, les chronobiologistes, ils ont dit qu'il y a deux temps forts de la vigilance pour l'apprentissage, c'est plutôt dans la matinée de 9h, 9h30 à 11h30 à peu près, voilà, qu'on est très vigilant, qu'on est attentionné, on va dire, attentif en classe. Et puis, il y a un deuxième moment dans l'après-midi, 14h, 14h30 jusqu'à 16h, 16h30, encore que ce deuxième moment de vigilance et d'attention, il fonctionne surtout pour les élèves un peu à l'aise, les élèves qui sont en échec, ceux qui sont insécurisés d'une manière générale, que ce soit parce qu'ils ont une vie compliquée ou que ce soit parce qu'ils se sentent en permanence en échec à l'école, et ben ce deuxième temps, il n'est pas efficace pour apprendre. Voilà, donc concevoir des enseignements qui commencent à 8 heures, parce que c'est comme ça, de 8 heures à 18 heures, en gros 7 à 8 heures d'enseignement par jour, c'est gigantesque, et ça suppose qu'à chaque heure, il est possible d'apprendre, ce qui est complètement délirant sur l'attention demandée aux élèves, voilà, et qui implique donc que les enseignants font forcément de la discipline et de la discipline complètement déconnectée du réel en fait, c'est-à-dire qu'il faut mettre une classe au travail alors qu'on ne peut pas biologiquement, mais même en termes cognitifs quoi.
Mais voilà, et c'est pour tout le monde pareil,
mais c'est ça, imaginons-nous nous toute la journée à devoir apprendre réellement concentré, c'est faux, ça ne marche pas quoi.
Et alors en plus cette espèce de mouvement permanent là, d'un cours à l'autre, d'une salle de classe à l'autre, ça doit pas être simple pour les élèves parce que bon, ils font une pause à la fin de l'heure de concentration intense et donc ils commencent à se défouler et hop à nouveau il faut se calmer, tranquilliser pour recommencer le deuxième cours.
Voilà.
Comment ils le vivent les profs ça, cette rupture Ils perdent pas un temps fou, parce que quand on voit en élémentaire comment c'est difficile de mettre les enfants, effectivement.
Bah oui, en fait, mais du coup, il y a cette pression pour les enseignants de devoir rendre le travail, l'unité de 55 minutes la plus rentable possible en termes d'apprentissage, mais de fait, le contexte et l'organisation fait que il faut du temps pour s'installer, il faut du temps pour se mettre dedans, il faut du temps pour que les gamins soient mobilisés par ce qui est en train de se passer dans la classe. Mais on considère toujours que c'est une perte de temps, alors que en fait, c'est pas la perte de temps, c'est indispensable de faire ce temps. Donc cette espèce de sentiment d'urgence, il est à la fois apporté par les enseignants qui doivent rentabiliser leur temps, qui sont là avec leur parcelle de travail et qu'on n'a jamais en gros la vision globale de ce qui est en train de se passer pour un élève dans la journée en fait. On a affaire à un petit moment qu'il faut rendre efficace. Bon. Alors qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'il y a très peu d'élèves qui vont coller à ça, très peu d'élèves qui vont marcher là-dedans et attraper le plus possible. Ça va avec le principe d'une école qui est sélective en fait, c'est-à-dire que si on se soucie de faire en sorte que tout le monde soit en réussite, ça n'est pas compatible avec l'organisation du temps. Si on parle juste d'organisation du temps, même pas méthode et contenu, quoi. Ça veut dire qu'il y a très vite des gamins qui vont être à l'ouest parce que ils peuvent pas être attentifs toute la journée, ils peuvent pas être concentrés toute la journée. Vous allez voir d'ailleurs dans l'enregistrement que j'ai fait avec des élèves de seconde, certains d'entre eux le disent, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'ils marchent. Et donc c'est aussi donc un système qui va mettre à l'écart tout un tas de gamins qui fonctionnent autrement.
Mais même les bons élèves, c'est pas possible, ils peuvent pas être comme ça attentifs toute la journée, ils doivent avoir des moyens de remédier à leur manque d'attention à un moment donné ou à un autre, parce que ils doivent développer des capacités autres, parce que c'est impossible.
Ouais. Et puis, ça fait que par exemple, il y a un grand stress autour des emplois du temps en début d'année, quand nous enseignants on reçoit les emplois du temps. Selon quand sont placés nos cours, on sait qu'on va avoir des cours hyper durs parce que mine de rien, il faut qu'on rentabilise ce temps et qu'on fasse rentrer là-dedans ce qu'on a à faire. Et ce qu'on a à faire, c'est le programme, en oubliant en général que le programme, l'important, c'est pas que nous, on fasse le programme, mais c'est que les gamins apprennent. Alors que, de fait, toute l'organisation de la journée n'est pas pensée pour que les gamins apprennent, donc soient dans les meilleures conditions pour apprendre. Voilà. Il y a un autre effet pervers de ça, c'est que on va de fait ne plus avoir la possibilité de s'occuper des élèves mangeurs de temps. C'est-à-dire que tous ceux qui ont besoin qu'on soit qu'on aille plus lentement, qu'on refasse lentement ou autrement ou avec quelqu'un d'autre, non, ceux-là ils vont être écartés vers d'autres classes, des classes où soi-disant on va aller plus lentement. En fait, en général, on va faire autrement et autre chose, et ils n'auront pas ces apprentissages communs. En gros, on a déjà parlé des SECPA, de ces sections d'enseignement où on met des enfants. Essentiellement parce qu'ils ne sont pas sur le rythme, sur le bon rythme de l'école. Donc effectivement, même les bons élèves, on se demande comment ils tiennent tout au long de l'année. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'école aussi, elle va privilégier, enfin l'école, le collège et le lycée surtout, elle va s'adresser à des élèves qui ont un rapport au temps qui est déjà dans ce morcellement et cet apprentissage du temps bien compté, bien organisé et rationalisé. Par exemple, tous les enfants qui ont des activités à heure fixe dans la semaine, qui font du sport à telle heure, qui font de la musique à telle heure, etc., tous ces enfants de ce milieu-là, eh ben, ils sont quelque part un peu préparés à avoir un rapport au temps efficace, utile, organisé, rationalisé, etc. Ceux qui ne sont pas dans cette temporalité-là, eh ben, ils vont être dégagés assez vite. Voilà ce que je voulais dire sur ce temps du collège et du lycée, qui est pour moi une gestion complètement catastrophique de la temporalité. Voilà.
Et tu vas le dire maintenant.
Ah oui, si, je voulais dire un autre truc aussi, c'est que d'une manière globale sur le temps de la scolarité, je pense que ce soit à l'école, au collège et au lycée, on a du point de vue des enseignants, on a une conception très très linéaire du temps. C'est-à-dire qu'on est censé entasser les savoirs, additionner les savoirs les uns après les autres, comme dans la journée, on additionne les savoirs les uns avec les autres, au lieu de faire des liens, au lieu de revenir régulièrement sur ce qu'on apprend. En les programmes d'histoire, par exemple, collège et lycée, c'est telle année, on apprend le Moyen-Âge, la préhistoire. Telle année, on apprend le Moyen-Âge. Telle année, on apprend l'histoire moderne. Telle année, on apprend le monde contemporain. Bon, au lycée, on arrive, on recommence tout. Mais tout ça n'a aucun sens n'a aucun sens parce qu'en fait c'est pas comme ça qu'on apprend, on en fait l'expérience commune, c'est pas par addition, on n'apprend pas une année une chose, puis on n'apprend pas une année à marcher, puis une année à lire, puis une année à conduire une voiture, puis une année... Non, on apprend petit à petit plein de choses qui se complexifient et s'enrichissent au fur et à mesure. Et il y a une image qui vient de Philippe Mérieux, qui est assez bien, qui dit que la vie scolaire, c'est comme la traversée d'un tunnel dans le noir, avec une lampe électrique qui n'éclaire que l'endroit où l'on est, alors qu'il faudrait que le tunnel il soit éclairé tout le long pour qu'on sache un peu où on en est, pour qu'on ait une vue un peu globale sur où on va, etc. Mais ce morcel, cette conception du temps morcelée tant sur la journée que sur l'ensemble de la scolarité, ça fait qu'on a des apprentissages qui ont beaucoup de mal à s'installer, et on voit bien, par exemple, je sais pas vous, mais moi j'ai appris des trucs pour le bac et ben, je les ai oubliés le lendemain quasiment, en fait.
Bien sûr.
Oui, oui. Bon, voilà. Est-ce que... Ah non, je crois qu'on doit parler d'abord de la question des cycles, etc. Ou est-ce qu'on écoute le petit reportage ?
On peut écouter le petit reportage.
Ouais.
Moi, je m'appelle Marion.
Moi, c'est Julie.
Moi, c'est Théo.
Et moi, c'est Marie.
Le temps de l'école, ça occupe quand même la majeure partie du temps de ma vie. Mais depuis que je suis toute petite, puisqu'on commence l'école à 3 ans, jusqu'à 18 ans, je pense que c'est quand même les trois quarts de la vie, je pense.
Moi, je trouve qu'on n'a pas suffisamment de temps. Moi, j'ai besoin de beaucoup de temps, je pense, et je ne m'en consacre pas assez.
C'est long, l'école. C'est long, moi j'aimerais avoir plus de temps pour moi.
La plupart du temps, c'est les cours. Et dans les moments libres, généralement, c'est passer du temps avec les amis. On discute, on va faire un basket, on sort. Quand on a du temps entre midi et deux, on va manger quelque part. En fait, le temps entre les cours, on ne le réserve pas à travailler, plutôt à passer du temps entre nous.
Je travaille en cours, enfin j'écoute le cours, mais après en dehors, je fais que rigoler. Je pense pas au lycée. Je pense au lycée quand je suis en cours, mais après sinon, non.
Ça dépend des cours. Quand on écoute, souvent ça passe vite, quand on fait les exercices et tout, mais quand on n'écoute pas, c'est super lent, on s'ennuie et c'est pour ça que ça nous énerve.
Moi je pense que ça devrait durer 45 minutes parce que c'est trop long d'être concentré comme ça, sur... une longue distance comme ça, moi j'arrive pas, après je décroche.
Oui, ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, ça dépend si on aime la matière, ça dépend de notre humeur. Si par exemple on est de mauvaise humeur ou on n'a pas envie, on va trouver que le temps passe super lentement, alors que si on est dans un bon jour et qu'on aime bien ce qu'on fait, ça peut passer super vite. Ça dépend de beaucoup de choses en fait, le temps.
Est-ce qu'il passe de la même façon que le temps à l'extérieur de l'école ?
Non. parce que non, parce que je sais pas, à l'extérieur de l'école, ça reste, c'est plus loisir. Donc c'est ce que je fais à l'extérieur de l'école, c'est moi qui le choisis. C'est des activités que je choisis de faire, alors que à l'école, enfin, c'est les cours, c'est toujours structuré, c'est toujours le même emploi du temps chaque semaine. Donc au bout d'un moment, la routine se répète et passe de plus en plus lentement.
Est-ce que tu as l'impression de perdre du temps ?
Ça dépend. Ça dépend. Après, non, quelque part non, puisque bon, l'école, ça sert, puisque on nous a, c'est pour le bac. Enfin, perdre son temps, non, même si des fois, ce qu'on apprend, je me dis que ça sert pas forcément à grand-chose dans la vie. Mais il faut bien en passer par là, donc perdre son temps, non, je peux pas dire ça.
Est-ce que vous avez le temps d'apprendre à l'école ?
Ben, en fait, par exemple, en maths, quand on copie le cours, moi, je comprends pas tout de suite. Après, on nous dit, je fais les exercices. Je comprends pas, moi, j'y arrive pas. Faut que je relise bien, faut que je me concentre. Et souvent, c'est pour ça que je... Enfin, c'est pas aussi... que pour ça, mais j'arrive pas à faire les exercices. Du coup, je décroche et j'écoute pas. Et alors que chez moi, j'arrive à lire le cours tranquillement et après à faire les exercices.
Moi, pareil, je pense qu'on n'a pas assez de temps parce que des fois, quand on ne comprend pas des choses, on n'ose pas le dire parce que les autres y suivent et du coup, après, on ne sait plus et après, on est un peu perdu des fois.
Si on écoute bien, on apprend. De toute façon, si on écoute bien le cours, c'est 70% du travail à la maison, quoi.
Ben, enfin, non, pas vraiment parce qu'on a l'impression qu'on connaît, enfin, on a l'impression de comprendre. Enfin, on est dans le cours, on dit, ah, tiens, je comprends. Mais le cours d'après, si on se rend compte qu'on a rien retenu du tout. Alors que sur le moment, on croyait savoir, alors que non. Je pense qu'il faudrait vraiment approfondir chaque leçon, enfin bien prendre le temps de tout comprendre et pas faire passer la leçon d'une traite et faire les exercices juste après, parce que ça sert au final, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis après aussi, à la maison, enfin, faut bien revoir et tout, parce que enfin, faut vraiment faire régulièrement, parce que même si on apprend un coup, et ben on se rend compte qu'après, on ne le sait plus.
Moi aussi, je pense que les profs, ils ne devraient pas écrire en même temps qu'expliquer, parce qu'on ne peut pas faire les deux. Enfin, moi, personnellement, je ne peux pas faire les deux. Quand j'écris les cours de maths, je ne peux pas comprendre en même temps. C'est pour ça que je ne comprends pas. Et aussi, le temps du travail, le temps quand on travaille, je pense que ça dépend de l'organisation des personnes. Il y a des personnes qui sont très organisées et elles vont vite. Et des autres personnes, comme moi, je ne suis pas organisée, je tourne sur ma chaise et... Au final, je prends 2 heures pour faire quelques exercices. Je trouve que cette année s'est passée super vite, même notre scolarité. Enfin, je pensais que ça allait durer plus longtemps, mais il y a des années où c'est pas passé vite. En troisième, c'est passé vite, en quatrième... Je ne me rappelle pas que ça soit passé vite.
Alors, qu'est-ce qui fait que ça passe vite et qu'est-ce qui fait que ça passe pas vite ?
Je pense que c'est parce qu'on se fait des amis, on rigole bien avec eux. Je pense que quand on est tout seul, ça doit vraiment passer lentement.
Je sais que quand j'étais au collège, je trouvais qu'on avait vraiment beaucoup, beaucoup de temps d'école. Enfin, je le ressens plus, je l'ai plus ressenti que je ne le ressens au lycée. Donc, c'est pour ça que cette année, moi, ça ne m'a pas trop changé du collège. Mais au collège, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé mon temps là-bas. Et ça m'a un peu... C'était un peu lourd. Après, durant toute ma scolarité, oui, j'ai passé beaucoup de temps à l'école. Mais à part au collège, j'ai jamais eu l'impression d'être étouffée à l'école.
Et est-ce que le fait de passer de 3 ans à 18 ans à l'école, ça te paraît bien ou pas ou...
Ça paraît long, oui, c'est sûr, dit comme ça. Oui, c'est long, mais après, de 3 ans à 18 ans, par rapport à une vie, c'est rien du tout. Donc, et puis après, on sait qu'on peut arrêter l'école à 16 ans ou à 16 ans s'orienter vers quelque chose. C'est nous qui choisissons notre orientation. Donc, à partir de 16 ans, c'est nous qui voulons continuer, donc c'est un choix à faire. Donc, si on continue, c'est que on en a envie. Et voilà, par rapport à la vie, c'est rien du tout. Donc de toute façon, quand on rentrera dans le monde du travail, on dira que ça nous manquera l'école. Donc.
Moi, je pense que ça passe trop vite.
Tu voudrais que ça dure davantage ?
Oui. Oui, moi, j'aimerais bien parce que comme ça, moi, je resterai jeune plus longtemps.
Ah bah non. Bah, déjà, depuis qu'on est tout petit, on va à l'école.
Et alors ?
Ouais, ça nous bouffe 6 mois de l'année un peu, quand même.
Plus ?
Non, 9 mois au moins. 9 mois de l'année.
Moi, j'aimerais bien plus tard, quand j'aurai plus l'école, quoi. Ça se passe comme ça. Tu as un travail, tu fais ce que tu veux. Enfin, alors que l'école, t'es obligé d'y aller. Tout.
Enfin, ouais, on travaille aussi.
Ouais, moi, je préfère travailler. On n'apprend plus et on se gère soi-même. On a. Enfin, après, je sais pas vraiment comment c'est, mais je pense que je préfère le travail que l'école.
Ouais, il me tarde de quitter l'école.
Oh. Et alors, pourquoi tu la quittes pas maintenant ? T'as ta saison ?
Ouais, non, pas encore. Je vais avoir 16 ans.
Et alors, qu'est-ce qui fait que tu la quittes pas tout de suite ?
Les parents. Et en plus, j'ai envie de me faire plaisir plus tard. Enfin, je sais quand je vais me faire plaisir plus tard, enfin, j'aurai travaillé, j'aurai de l'argent, parce que j'aurai bien travaillé à l'école. Et donc, je peux me payer une voiture, une belle maison, et me la couler douce, quoi.
Mais je pense que déjà, on est trop jeune pour se rendre compte que les études, c'est hyper important. Je veux dire, les adultes, ils disent tout, j'aimerais vraiment revenir à l'école parce qu'ils se rendent compte que c'était des belles années, vu que c'est eux, ils sont déjà au travail, et ben, ils aimeraient y retourner parce qu'ils étaient bien, ils n'avaient pas de responsabilité et tout. Alors, enfin, d'un côté, moi, je suis contente d'être ici, mais le plus tard, ça me fait peur aussi un petit peu quand même.
Et si oui, le rythme de l'école était une musique, qu'est-ce que ce serait selon vous ?
Du blues. C'est lent, mais ça envoie.
Okay, du classique, parce que parfois c'est vraiment déprimant.
Et votre rythme à vous, alors, c'est quoi ? Votre rythme personnel, ça ressemble à quelle musique ?
À de la dubstep.
Toujours le blues. C'est lent. Je fais ma scolarité lentement, ça me posait, mais je la fais bien. Ça envoie, quoi. Enfin, j'essaie de la faire bien.
Et du coup, est-ce que votre rythme s'accorde à celui de l'école ou est-ce que celui de l'école s'accorde au vôtre ?
Non. Non, parce que moi, il me faut du temps et l'école, ça va trop rapidement pour moi.
Enfin, non. Parce que moi, je suis blues, mais l'école, c'est rock. Ça va un peu trop vite pour moi. Enfin, le rythme. Comme je suis personne qui est lent, enfin, j'aime bien être lent, pas me presser, et comme l'école ça presse, ben, ça fait une note fausse de musique.
See you watching me like a hawk. I don't mind the way you talk. But if you touch me something, got to give. I live the life I love, and I live the life I live. So if you see me and you think I'm wrong, don't worry about me, just leave me alone. Sweet, I have nothing but a thrill. I live the life I love, and I live the life I live. My diamond ring and my money too. Tomorrow night it could be loaned to you. The girls move me at their will. I live the life I love, and I love the life I live. I may bet 1,000 on a horse this time. 1 minute late, I may not have a dime. Tomorrow night, I could be over the hill. I just want you to know, baby, the way I feel. See me walking as I pass you by. Don't talk about me, 'cause I could be high. Just forgive me if you will. I live the life I love, and I love the life I live.
Alors voilà, c'était des élèves de seconde du lycée Rive Gauche au Mirail. Et ce qui est marrant, ce qu'ils disent, c'est qu'à la fois à l'école ça va trop vite, ce qui souligne en fait le temps nécessaire pour apprendre, et en même temps c'est lent. Et c'est lent, on comprend assez bien pourquoi, c'est que en fait ils s'ennuient. C'est routinier, et puis on a l'impression que ça n'a pas de sens. À aucun moment il y a du lien entre il y a le temps de la vraie vie, en gros, avec les copains, on rigole, il y a le temps choisi, les activités qu'on choisit à l'extérieur de l'école, et puis il y a ce temps contraint qui se traîne là, avec il n'est jamais question de ce qu'ils apprennent, et éventuellement, même si on leur demande le sens, l'utilité que ça peut avoir, et ben ça n'en a peut-être pas beaucoup, quoi. Et c'est des élèves très divers, hein, c'est-à-dire, dedans, il y a des élèves qui sont pas, qui réussissent pas super bien à l'école, et d'autres élèves qui sont des bons élèves. Et voilà, et du coup, moi, ça me rappelle deux choses. D'abord, d'une part, que je pense que le morcellement y est beaucoup, et beaucoup pour ce temps pour l'ennui qu'on a à l'école, c'est-à-dire que plus le travail est morcelé, moins il a de sens, et du coup moins ça passe vite. Et puis il y a Freinet qui disait que lui, s'il pense que on dit souvent que les enfants ils peuvent pas travailler plus de 40 minutes, qu'il faut 10 minutes de récréation très vite, toutes les 40 minutes, etc. Lui, il dit, on constate que la règle de 40 minutes de travail, 10 minutes de récréation, elle est fausse. Lorsqu'un enfant est occupé à un travail vivant qui répond à ses besoins, l'enfant ne se fatigue absolument pas et il peut s'y appliquer pendant 2 ou 3 heures. Et c'est vrai, ça, le truc de l'attention en classe, c'est parce que tout est déconnecté du réel, de la vraie vie, mais aussi parce que c'est super découpé, ça n'a pas de sens, quoi. Ça vient un côté absurde de la machine toute la journée, quoi.
Ouais, ils le disent bien, hein, d'ailleurs, ouais. Vraiment, c'est pas leur vie. Ils disent même, ce qu'on apprend à l'école, il y a des trucs, ça ne nous sert pas dans la vie, ça ne va pas nous servir dans la vie. Ça prouve que c'est totalement déconnecté, ce qu'on leur fait apprendre. C'est déconnecté d'eux, finalement.
Ouais, ouais.
Donc forcément, un truc qui ne nous intéresse pas, on n'a pas envie, quoi.
Mais donc, en fait, on voit aussi que là, on aborde le problème par le biais du temps, mais c'est en lien avec le contenu et avec la pédagogie. Et comme tu disais, ces fameux créneaux complètement découpés, ils empêchent effectivement aussi une pédagogie qui correspondent à ces élèves, aux élèves en règle générale, que ce soit en primaire ou dans le secondaire. Alors, ça me fait quand même aussi penser une chose, de tout ce qu'ils disent. Il y a eu, par rapport au rythme, au fait qu'il fallait peut-être envisager les choses autrement pour pas que les enfants se sentent dépassés par cette trop grande vitesse de l'école, il y a eu des tentatives de répartir les enseignements un peu différemment, même sans rentrer dans l'aspect pédagogique des choses. Notamment, en 89, pour ce qui est de l'école élémentaire, on a dit qu'on allait faire des cycles, c'est-à-dire ne pas dire, bon, à la fin de l'année du CP, l'enfant doit savoir absolument ça, sinon il passe pas en CE1, et pareil d'année en année, mais on s'est dit qu'on allait faire des apprentissages sur 3 ans ou 2 ans, donc on a mis un premier cycle, petite section, moyenne section, un peu grande section, le deuxième cycle, grande section, CP-CE1, puis l'autre CE2, CM1, CM2. Voilà. Donc on se disait que les enfants avaient 3 ans pour apprendre un certain nombre de choses, et donc sans se stresser si à la fin de l'année de CE2, ils n'avaient pas tous les acquis qu'on pensait jusqu'alors. Bon. Sauf que cette réforme des cycles, qui avait des idées intéressantes au départ, hein, qui véhiculait des idées très intéressantes, elle n'a jamais été appliquée. Jamais. Alors, pourquoi elle n'a jamais été appliquée? Parce que, en fait, il n'y a pas eu, encore une fois, le temps de réfléchir, de mettre en forme, qui est au moment en 89 pour mettre en place ces choses-là. Et puis, les moyens aussi pour essayer de rendre tous ces apprentissages cohérents. Bon, on demandait aussi plus de maîtres que de classes pour essayer de mettre en place des groupes pour venir en aide à éventuellement lors de problèmes passagers. D'apprentissage aux élèves, mais à l'intérieur d'une classe, hein, pas sous le sous-traité en aide personnalisée comme on veut nous faire maintenant. Et Donc toute cette réforme, elle n'a jamais été appliquée. Et là, les cycles, ils ne sont pas disparus hein, des textes pour l'instant. Mais petit à petit, en fait, au fil des ans, on a de plus en plus, et notamment, bien sûr, sous le règne de Sarkozy, on est revenu à des choses qui sont extrêmement découpées. Et donc ça se voit dans les manuels scolaires aussi. Hein. Il y a le manuel même de la moyenne section, de la grande section, du CP, etc. Donc à nouveau, alors qu'il y avait une tentative justement de réfléchir autrement, mais nous en tout cas pour ce qui concerne le primaire, bah c'est, on nous pousse à réfléchir année par année. Quand on sait l'aberration que ça représente aussi du point de vue du développement ne serait-ce que physique, biologique de l'enfant, c'est complètement idiot, parce qu'on sait bien que dans une classe il y a quasiment un an d'écart entre les plus jeunes et les plus vieux, le cerveau il ne mûrit pas par année scolaire, hein, il mûrit quand il peut mûrir le cerveau. Donc,
et puis tout le monde de façon différente en fait en plus, voilà. C'est ça qui est...
Donc c'est complètement absurde. Et voilà, je ne sais pas si un jour on reviendra à nouveau sur cette réflexion. Alors tout ça, ça fait aussi qu'il y a beaucoup de redoublements. Hein. En France, on est le pays où on redouble le plus en Europe. Au secondaire, il y a quasiment la moitié des élèves qui ont redoublé. On pourrait peut-être se poser des questions quand même là-dessus. Il y a quand même un découpage du temps d'une année sur l'autre qui ne va pas. Alors, d'un côté, en plus, ça coûte de l'argent, évidemment, de faire redoubler des élèves. Mais de l'autre côté, on ne veut pas consacrer de l'argent à réfléchir autrement, à réorganiser les choses d'une façon intelligente. Donc, il y a quand même quelque chose d'extrêmement bizarre dans cet état de fait.
Mais moi, je trouve que ce que ça montre aussi, c'est que quand même pour la moitié des élèves, il faut plus de temps aussi.
Voilà, bien sûr.
Mais après, il y a cette absurdité du redoublement où c'est refaire exactement la même chose.
Il y a la même vitesse qui fait qu'en fait, finalement, les élèves qui redoublent, on s'aperçoit que leur résultat, à la fin, alors bien sûr avec des variations individuelles, mais à la fin, ils ne sont pas meilleurs. C'est-à-dire, s'ils ont redoublé, ils ne vont pas réatteindre le niveau qu'ils auraient dû avoir. De toute façon, ça se voit en fin de lycée, dans les orientations professionnelles, etc. Le redoublement, ça marque pour la vie. On ne rattrape jamais. On ne rattrape jamais. Les résultats ne sont pas aussi bons. Quand on a redoublé, on pourrait s'étendre à, une fois qu'on redouble, qu'on ait des résultats normaux, on va dire. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Alors, avec des variations, bien sûr.
Oui, parce que, en fait, quelque part, moi, ça me choque pas. Enfin, j'ai l'impression que, de toute manière, on fait globalement soit son lycée en 3 ans, soit son lycée en 4 ans.
Oui, mais dans ce que tu mémorises, dans ce que tu es capable de mettre en œuvre, et on le voit dans les évaluations internationales, eh bien, il y a une réelle différence entre les enfants qui ont redoublé et les autres. Et on le voit, ça reste. Donc, il y a quand même quelque chose.
Ça n'amène rien.
Quoi. Eh bien, voilà. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas s'en occuper de ceux qui n'arrivent pas à suivre. Bien sûr qu'il faut s'en occuper, mais le choix qu'on a fait de les faire redoubler, c'est pas du tout un choix efficace. Pas du tout. C'est comme si, alors j'ai plus le petit texte sous les yeux, mais il y avait un des sociologues qu'on a lu par rapport à la préparation de cette émission, qui dit, imaginez que vous alliez voir un film, vous vous asseyez devant l'écran, là il passe très très vite, vous ne comprenez rien. Qu'est-ce qu'on vous fait ? On vous repasse le même film à la même vitesse. Il y a des chances pour que vous ne compreniez pas davantage. Hein. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses là au niveau du redoublement sur lesquelles il faut qu'on se penche.
Oui, mais parce que la question, elle n'est pas tellement... elle n'est pas que celle de l'organisation du temps. C'est que refaire les choses, même à un rythme plus lent, si le problème, c'est le contenu, si le problème, c'est la méthode, puisque quand même, globalement, là, on l'a entendu, moi, je trouvais que c'était assez marquant chez les gamins qui parlaient, que le fonctionnement collège-lycée, alors, bon, à l'école primaire, vous faites souvent autrement, mais collège-lycée, c'est leçon plus exercice. Franchement, on est comme chez les jésuites au XVIIe siècle, vous vous rendez compte, quoi. Et c'est que cette vision-là, forcément... Ça convient pas pour la plupart des gamins. On n'apprend pas comme ça, enfin.
Non, on n'apprend pas comme ça. Et on voit bien que de toute façon, c'est pas l'enfant qu'on prend en compte. On ne le prend pas en compte, l'enfant, vraiment. Dans ce décret-là, dans la manière de faire de l'éducation nationale, c'est pas l'enfant qu'on prend en compte. Ni on ne le respecte pas, ni dans son temps, ni dans son apprentissage, de toute façon. Alors après, on peut toujours rêver à autre chose, hein. D'ailleurs, c'est bien de le faire.
Oui, mais il y a des écoles qui ont tenté d'autres choses. Il y a une école, par exemple, dans le près de Lille, ou dans la région lilloise, qui a, par exemple, réorganisé les matinées, écoles et collèges, des matinées qui ont été organisées complètement autrement, avec des temps longs, justement. Des temps longs, des temps, du coup, de travail où les enfants sont impliqués dans le contenu de ce qu'ils font. Ils y passent du temps et la matinée passe et c'est et sur effectivement des contenus qui demandent une certaine vigilance, donc ça peut être abordé le matin par exemple. Il y a des projets en maths qui sont menés et puis et on prend le temps de faire la recherche de maths. Et par petits groupes, les gamins travaillent à leur rythme, etc. Et de fait, ça fonctionne mieux.
Et d'ailleurs, mais il faudra qu'on en reparle dans l'émission suivante, parce que bon, on avait annoncé plein de choses en début d'émission, on n'a même pas fait le tour de tout ce qu'on voulait dire là. Mais en fait, justement, dans le projet que tu évoques, dans le Nord, il y a un partenariat avec les communes sur les temps périscolaires. Donc, c'est des expériences qui sont intéressantes à regarder et pour s'en servir et pour aller au-delà si c'est possible. Voilà.
Oui, il faut voir. Il faut voir comment c'est fait. Il faut voir plein de choses, hein. C'est pas tout de. Mais.
Qu'est-ce qu'on va faire là? Est-ce qu'on va aborder pour vous donner envie le contenu de la troisième partie qu'on avait évoquée? Ou est-ce que peut-être il y a des choses à préciser? Ouais,
au moins, peut-être il y a quelque chose aussi à dire sur la façon dont le temps de l'école est pensé dans le rapport au temps globalement dans la société, en fait. Ça, voilà. Il y a quand même deux petites choses à dire sur le modèle qui prévaut. Pourquoi est-ce que l'école est organisée comme ça?
Oui, alors là, il y a effectivement beaucoup de choses à dire, mais on va peut-être en dire juste deux petites choses. Alors, pour moi, ça dans un contexte un peu général, parce que d'ailleurs c'est intéressant, tes élèves ils parlent du temps de l'école et ils le comparent au temps du travail. Alors bon, c'est effectivement ça fait sourire, mais malheureusement le temps de l'école il est effectivement calqué sur le temps du travail, donc il ne faut pas qu'il se passe trop d'illusions, mais bon, il ne faut pas leur dire trop fort. Mais c'est vrai que l'emploi du temps des écoliers, il a été fait de tout temps en fonction de ce qu'est le monde du travail.
Mais alors, à la fois parce que c'est le temps des parents,
voilà.
Quand même, il faut s'adapter, oui, au temps des parents, mais c'est aussi pour préparer au travail.
Voilà, parce que c'est le temps des parents, on va dire que l'école telle qu'elle est, telle qu'elle s'est développée, au moment où elle s'est développée, bah, c'est en plein âge industriel, on va dire. Donc, effectivement, avec des longues journées de travail, donc les enfants sont beaucoup à l'école et ça colle complètement à ce modèle-là, alors avec une nécessité d'un réveil vraiment et d'une ponctualité, et voilà. Mais ce temps-là, il a petit à petit évolué malgré tout en fonction, nous, de la façon dont notre société s'est organisée. Il y a eu un petit peu plus de temps de loisirs qui est petit à petit entré dans la semaine des adultes. Bon, il y a eu les congés payés aussi, tout simplement, hein, en 36, donc la semaine, elle a raccourci, là. Il y a eu aussi la notion de week-end qui petit à petit est apparue, parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'en 69, on allait à l'école le samedi après-midi aussi. Donc, on a... Oui. Donc, on a supprimé le samedi après-midi, par exemple. Et puis, on a déplacé ça au mercredi. Bon, on a modifié petit à petit les choses. Et là, les réformes des dernières années, par exemple, elles collent aussi avec des tendances qu'il y a dans la société de regrouper les horaires de travail sur peu de jours. Et donc, depuis 2008, il y a un certain nombre d'écoles qui ont regroupé les heures d'école sur 4 jours aussi. On voit bien l'aberration du système, puisque du coup, ça fait des journées encore plus longues pour les élèves et les enfants ne sont pas du tout en mesure de supporter ça. Hein, déjà, les adultes, ce n'est pas forcément simple pour eux, mais pour les enfants, c'est bien sûr encore plus compliqué. Donc, il y a toute cette problématique-là. Après, le temps, la façon dont on fait vivre le temps aux enfants, c'est effectivement la même façon dont on vit le temps au travail. Le temps, il est contraint, il est fractionné. Ce sont exactement les mêmes caractéristiques que dans le travail. Il est borné Voilà, mais je crois qu'on ne peut pas, peut-être pas trop rentrer dans les détails maintenant. Je pense qu'on aura l'occasion dans la prochaine émission de reparler de ce lien entre le temps de la société et le temps de l'école, et puis d'aborder toutes les nouvelles idées qui peuvent, pour les idées qui ont été mises en place éventuellement dans d'autres aménagements de temps, et puis peut-être échanger avec d'autres personnes aussi. On verra ça.
Ouais, et puis voir nous comment on fait concrètement. Voilà. Comment est-ce qu'on on s'adapte ou pas aux contraintes de temps.
Voilà, parce que
dans lesquelles on enseigne.
On n'a pas parlé beaucoup de nous en tant qu'enseignants.
De nos expériences à nous. Ouais. Mm. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le 27 juin.
Je sais pas.
Bon, fin juin. Allez, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
J'ai mis tant et tant de temps pour grandir. On met tant et tant de temps, mon enfant, tant et tant de temps pour devenir grand.